Voilà. Donc, anges et démons, c'est un sujet évidemment très intéressant. C'est un sujet pas facile du tout. C'est un sujet aussi qui, dans le syllabus, a deux leçons. Donc ici, je vais donner en une heure ce que vous avez dans votre syllabus en deux chapitres. Autrefois, j'ai donné en deux heures. Donc, je vais donner l'essentiel. Et je crois que la feuille de route, qui est assez complète, vous permettra de suivre. Alors, je ne vais pas lire tout ce qui est sur la feuille de route parce qu'il y a notamment des chiffres, des statistiques, par exemple. Ça, c'est à regarder calmement plus tard. Mais je crois que c'est assez significatif. Donc, quel est le parcours que je vais faire? D'abord, je vais rappeler quelle est la doctrine la plus classique, celle du catéchisme. Comme d'habitude, il y a donc un petit paragraphe sur les anges, un autre sur les démons. Et à cette occasion, je rappelle qu'il y a seulement deux versets de toute la Bible, qui sont tout à la fin du Nouveau Testament, qui parlent de la chute des anges qui se transforment ainsi en démons. Donc deux versets, pas plus, hein. Alors, nous allons voir dans l'Écriture, si on parle beaucoup des anges, si on parle beaucoup des démons, alors avec démons, je mets évidemment aussi Satan, je mets diable, parce que ce sont des traductions, si on veut. Je rappellerai rapidement ce qu'en pense saint Augustin, on l'a déjà un peu vu avec saint Augustin, le pseudo-Denis, saint Thomas d'Aquin, et je commencerai là déjà avec Karl Barth. Karl Barth, qui est un théologien protestant du siècle passé, et qui me semble être un de ceux qui a le mieux étudié le sujet, et qui critique saint Thomas d'Aquin en disant qu'il est trop abstrait, trop philosophique, et pas assez scripturaire. Scripturaire, ça veut dire, pour un protestant, il faut que ça se trouve dans la Bible. S'il se trouve dans la tête d'Aristote, c'est pas la même chose que si ça se trouve ou pas dans la Bible. Alors, quels sont les textes du magistère? Ça veut dire les conciles, les encycliques, etc., qui auraient parlé de ça. Beaucoup en parlent, mais n'en disent pas grand-chose, finalement. Et je vais proposer, donc, la vision de Karl Barth, qui est assez original. Je suppose que vous allez peut-être être étonné, mais moi je la trouve très intéressante parce qu'il trouve les anges dans la Bible. Et à propos des anges, eh bien il va notamment à partir du Notre Père, que ta volonté soit faite comme au ciel ainsi sur terre. Ça, c'est le domaine des anges. La traduction, hein, normalement en français, a retourné les choses, hein. Sur la terre comme au ciel, ça devrait être comme au ciel, ainsi sur terre. Et puis on descend, et descend jusqu'au mal, et puis on remonte, car c'est à toi qu'appartiennent, etc. Bon. Et il va mettre donc les anges en rapport avec le ciel et la terre et le ciel. Expression qui revient très, très, très fréquemment dans la Bible, presque 2000 fois. Qu'est-ce qu'en dit Balthazar, autre grand théologien, qu'en dit Ratzinger? Et puis nous aurons les cinq thèses de Lehmann, qui résume un peu tout cela, et un petit mot sur la question de la possession démoniaque, diabolique. Alors, on commence. Quand on prend le catéchisme au numéro 328 à 336, on a une explication de ce qu'en sont les anges. Et on indique tout de suite que l'existence des anges est une vérité de foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une vérité de foi? Ça veut dire que ça a été suffisamment défini dans l'Église par des conciles, par des papes, etc., pour que ce soit proposé à la foi comme quelque chose de défini et donc qui appartient vraiment à la foi, qu'on ne peut pas exclure de sa propre foi. Alors évidemment, on va voir comment on interprète plus ou moins, sérieusement, cette question de l'existence des anges, mais voilà, le catéchisme signale que c'est quand même une vérité de foi. Ce qu'on ne dit pas à propos de l'existence des démons. À propos de l'existence des démons, on ne dit pas ça. Donc cette mention n'est pas explicitée pour les démons. Ce n'est pas un oubli, hein. C'est donc quelque chose de bien conscient. Cette vérité de foi, eh bien, on dit donc qu'il y a des êtres spirituels, non corporels, que l'Écriture sainte appelle des anges habituellement. Qui sont-ils? Saint Augustin en parle en disant « Le mot « ange » ne définit pas l'être de l'ange. le mot ange lui dit la mission de l'ange. Qu'est-ce qu'un ange? Un ange, c'est un envoyé. Angelos, c'est être envoyé, être un envoyé. Donc, eh bien, toute la Bible, selon saint Augustin, quand il nous parle des anges, nous parle d'êtres dont on ne sait rien, mais qui sont envoyés. Alors, saint Thomas d'Aquin parlera beaucoup plus de l'être des anges, hein, de leur nature. Mais saint Augustin dit quand même que la nature reste plus ou moins inconnue. Il n'y a pas de grande métaphysique des anges dans la Bible, mais on parle de leur envoi. Et ça, c'est très fréquent. Dans le Pentateuque, donc dans les cinq premiers livres, mais aussi dans la vie de Jésus, au début de sa vie, à la fin de sa vie, les apparitions de la résurrection, les anges sont présents. Et ils ont une mission. Une mission, la plupart du temps, d'annoncer, de glorifier, etc. Alors, le Christ avec tous ses anges. Le Christ est le centre du monde angélique. Tout a été créé en lui et par lui. Je rappelle les grandes hymnes pauliniennes. Tout a été créé en lui, par lui, pour lui. Le monde visible et le monde invisible, ça se trouve aussi dans les lettres de Paul, et c'est très clair. Donc les anges, semble-t-il, d'après Paul, ont été créés par lui et pour lui. Et ils ont une mission par rapport à la terre, par rapport à nous. Ils sont là, ils nous annoncent des choses. Ils annoncent la naissance de Jésus à Marie, ils annoncent la résurrection aux femmes, etc. Mais ils ne font pas quelque chose. Ce n'est pas eux les acteurs. Hein. Ils accompagnent une action qui se fait. Ils accompagnent l'Esprit Saint qui vient en Marie. Ils louent le Seigneur. Hein. Ils sont gloire à Dieu au plus haut des cieux lors de la naissance. Mais ils ne font pas quelque chose. Hein. Ils sont comme des témoins. Alors ça, c'est assez intéressant à remarquer, donc, hein, que les anges, eh bien, ne sont pas des interventionnistes dans notre monde. Mais s'ils sont là, et s'ils font quelque chose, c'est accompagner une action qu'un autre fait, pour l'encourager en fait, hein, ou pour exalter donc, ce qui se fait. Voilà ce que le catéchisme nous dit des anges. Alors qu'est-ce qu'il nous dit des démons ? Eh bien, comme je vous ai dit, on a omis, pas par hasard, le fait qu'il s'agisse d'une définition de foi. Hein. On ne dit pas cela. Donc, voilà, on dit la tradition, l'écriture, hein, voit qu'on parle des démons. Hein. On considère qu'un ange déchu, appelé Satan ou diable, bon, est apparu. Et on en parle dans le concile de Latran IV, on lira le passage. Hein. L'écriture parle d'un péché de ces anges. Quand on dit l'écriture, franchement, c'est un petit peu exagéré, je trouve, hein, parce qu'il y a deux versets. Quand on dit l'écriture en parle, bon, d'accord, mais enfin, il n'y a quand même que deux versets. Nous allons les lire, hein, qui sont là, qui parlent donc du péché des anges. La deuxième de Pierre, chapitre 2, verset 4. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a mis dans le Tartare et livrés aux abîmes des ténèbres, où ils sont conservés pour le jugement, etc. Bon. » Et puis c'est tout. Et dans la lettre de Jude, qui n'a même qu'un chapitre, hein, quelques versets, on dit à peu près la même chose quant aux anges qui n'ont pas conservé leur primauté, mais ont quitté leur propre demeure. C'est pour le jugement du grand jour que Dieu les a gardés dans les liens éternels au fond des ténèbres. Voilà, ça c'est la question de la chute des anges, hein, qui sont devenus ainsi le diable, Satan, les démons. Alors vous allez me dire, oui mais dans l'Apocalypse, moi je vois souvent le diable, etc. On en parle souvent, oui c'est vrai, mais on ne parle pas de leur chute. Ce sont des diables. Ce sont des démons. Hein. Ils le sont déjà. On n'explique pas le passage d'ange à démon. Seuls ces deux versets de l'Écriture donc en parlent. Donc voilà, l'Écriture parle d'un péché de ces anges, mais comme vous voyez, c'est quand même quelque chose de très ténu. Hein. Alors, il n'y a pas de repentir pour eux après la chute, on dit que leur liberté est un seul acte, oui ou non, si c'est non, eh bien c'est non. C'est terminé. D'ailleurs, saint Jean Damascène dit que, de même qu'il n'y a pas de repentir pour l'homme après la mort, il n'y a pas de repentir pour l'ange déchu après son nom. Voilà, c'est un choix instantané. qui peut ressembler à ce que nous vivons, nous, dans le temps, mais qui sera quand même instantanément fixé, hein, le jour de notre mort. Alors on dit que la puissance de Satan n'est cependant pas infinie. Là, c'est une grande insistance de l'Église pour dire que Satan n'est certainement pas un deuxième Dieu, un Dieu à côté du Dieu bon, un Dieu mauvais. Hein? À peu près tous les textes qui parlent du diable refusent ce manichéisme, refusent le dualisme. Et au fond, donc en disant cela, on ne dit pas grand-chose du diable, on dit surtout qu'il y a Dieu qui existe, hein? Et qu'à côté de Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu. Voilà, ça c'est que ce que dit, si on veut, le catéchisme et les deux passages dont je vous ai parlé sur la question de la chute des anges qui seraient ainsi devenus des démons. Alors, je vous ai déjà dit que dans le catéchisme hollandais, tout de suite après le concile, on avait invité les conférences épiscopales à faire des catéchismes. Les Hollandais ont été très rapides. En 66, ils sortent un catéchisme dans lequel on doute de l'existence des anges. Hein? On ne dit pas qu'ils n'existent pas, mais on ne dit certainement pas qu'ils existent. Hein? La formule est assez floue. Il y a eu un petit débat à ce niveau-là. Rome a dit que ce n'était pas bien, qu'il fallait corriger. Les Hollandais ont corrigé, mais pas beaucoup. Et puis ils ont dit, maintenant c'est comme ça, c'est comme ça. Hein? Alors, que faut-il penser de cela? Je ne parle pas de la question disciplinaire. Hein? Mais je parle de la question, est-ce que le chrétien doit... douter des anges ou pas, ou se retenir d'en parler, hein? Eh bien, je dirais que pour ma part, je ne suis pas un grand partisan des grands discours sur les anges ou sur les démons, mais je pense que quand l'homme supprime le monde invisible, quand il dit qu'il n'y a que le monde visible, il n'y a que nous-mêmes, à la limite, hein, eh bien, il y a un certain danger d'anthropomorphisme, d'anthropocentrisme. Quand on dit la création de Dieu, c'est quoi? C'est l'homme. Alors moi, je ne sais pas si à côté des hommes, il y a des anges. Mais lorsque j'affirme que la création de Dieu, c'est l'homme, et l'homme tout court, et rien que l'homme et pas plus, je trouve que là, il y a un anthropocentrisme qui, je trouve, va un peu loin par rapport au mystère de la création. Dans le credo, nous disons, bon, il est le créateur des choses visibles et invisibles. Bon, les choses invisibles, on ne les voit pas, d'accord. Enfin, on croit qu'elles existent. Eh bien, cette foi dans quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne voit pas, je trouve que c'est aussi une modestie, hein, une humilité de notre être créé d'homme, d'être visible. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est donc, je ne crois pas qu'il faille affirmer, pour ma part, beaucoup de choses sur les anges qu'on ne voit pas, mais dire, non, ils n'existent pas, moi je sais qu'ils n'existent pas, c'est quand même une grande prétention, hein. Et s'il n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y a que l'homme qui existe. Ça, c'est aussi une grande prétention. Donc, je pense que il faut admettre un certain mystère dont on ne peut sans doute pas dire grand-chose, mais l'admettre déjà, hein, avec une retenue, eh bien, c'est déjà, je pense, un certain hommage à Dieu. C'est un créateur, mais ce n'est pas un créateur au service de l'homme. C'est un créateur qui a créé l'homme, oui, qui a une aventure incroyable d'alliance avec l'homme, mais... voilà, hein, nous ne savons pas exactement le fond de son mystère de créateur. Il y a peut-être beaucoup plus que ce que nous croyons. C'est aussi quelque chose que saint Augustin, hein, a bien mis en évidence, et je crois que dans les pages sur saint Augustin, je l'indique. Alors, j'ai fait une enquête exhaustive sur certains mots dans la Bible. Alors, ce ne sont que des mots, bien sûr, hein. J'y ai passé un certain temps avec le logiciel Accordance, qui est d'ailleurs un outil merveilleux. Hein. Et voilà à quoi je suis arrivé. Donc, ce sont des données originales que vous pouvez vérifier, si vous voulez. Alors, les chiffres, c'est, ça clope pas toujours, hein, parce que la Bible, c'est assez compliqué. Hein. Parfois, un verset devient deux dans une autre version, et puis il y a les deutérocanoniques, et puis, il y a 36 trucs. Donc, c'est des chiffres... pas à la grosse louche, mais c'est quand même donc des choses assez précises qui vous disent par exemple que les occurrences de anges en hébreu, en grec, dans la Bible, eh bien, il y en a 289 qui se répartissent sur 274 versets, et il y en a 105 dans l'Ancien Testament et 170 dans le Nouveau. C'est déjà intéressant de voir que le gros Ancien Testament a moins d'anges que le petit Nouveau Testament. C'est intéressant. Hein? Alors, on peut presque dire que dans le Pentateuque, dans les cinq premiers livres, dans le cinquième, il n'y a rien d'ailleurs, dans le Deutéronome, dans les quatre premiers livres, l'ange, c'est l'ange du Seigneur, Malach Adonai. Et pratiquement, c'est le Seigneur. C'est le messager du Seigneur, mais parfois, entre le messager et le Seigneur lui-même, au cours du récit lui-même, hein, on voit que s'il n'y a plus de différence qui est faite. Donc l'ange du Seigneur, c'est vraiment quelqu'un qui est envoyé, mais qui est pratiquement, instantanément, se confond avec le Seigneur. Dans les autres livres de l'Ancien Testament, il n'y a pas grand-chose de super intéressant. Mais dans le Nouveau Testament, eh bien, on remarque en effet que chez les synoptiques, Matthieu 19 fois, Marc 5 fois, Luc 23 fois, c'est surtout au début et à la fin de la vie de Jésus. Pas dans sa mission. Les anges ne sont pas là comme ses soldats ou ses gardes du corps. Ils ne prennent pas part à la mission de Jésus. Ils la glorifient quand elle commence et ils annoncent sa résurrection à la fin de l'évangile. Chez Saint Jean, comme d'habitude, c'est un peu différent de ce qu'il y a dans les synoptiques, mais dans le grand prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe, qui est comme un nouveau commencement de la Bible, hein, Bereshit bara Elohim, au début Dieu créa le ciel et la terre, et bien au commencement était le Verbe. On ne parle pas des anges dans le prologue. Hein. On ne parle pas de la création invisible. Dans les Actes des Apôtres, il y a pas mal d'anges. 14 fois, ils interviennent, ils parlent, ils agissent. Bon, ils sauvent par exemple Pierre de la prison, etc. Enfin, et en même temps, il y a un tremblement de terre. Enfin, donc, on ne sait pas si c'est l'ange ou le tremblement de terre. En tout cas, ils sont là. Et plus au début, dans la première moitié des Actes, que dans la seconde. D'ailleurs, quand on lit les Actes, il y a beaucoup plus de faits miraculeux dans la première moitié que dans la seconde. Comme si l'Esprit-Saint, au début, avec les anges et tout ce qu'il faut, hein, commence la vie de l'Église, et puis petit à petit, ben, elle doit se débrouiller. Hein. Et c'est aussi souvent l'ange du Seigneur. Angelos tu curiu, angelos tu teu. Donc quelque chose qui indique fort la proximité avec le Seigneur lui-même. Chez saint Paul, le Christ est supérieur à tous, même aux dominations, aux anges, etc. Dans les Hébreux, on en parle un peu. Dans l'Apocalypse, 65 anges. Alors là, on a mis la gomme. Hein. On a mis la gomme. Et il y a des séries. Il y en a 7, et puis 4, et puis de nouveau 7, et puis 4, etc. Mais, comme par hasard, quand on regarde les citations du catéchisme, eh bien, il y a une seule citation d'un ange de l'Apocalypse. Ce qui, à mon avis, montre très bien que tous les anges de l'Apocalypse ont un statut très symbolique. Hein, ont un statut de... C'est le récit qui se déroule. Et les anges sont là, bien sûr, mais ce n'est pas du tout la même chose un ange de l'Apocalypse et l'ange de l'Annonciation. Hein. Les sept anges de l'Apocalypse, bah, c'est une série pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire. Quoi, bah, on n'en sait trop rien. Mais l'ange Gabriel, ça, c'est quelque chose. Hein? C'est l'annonce, vraiment, de l'Esprit-Saint. Donc voilà, je crois que les anges, et les démons d'ailleurs, qui se trouvent dans l'Apocalypse, il faut les prendre dans le genre littéraire apocalyptique. Hein? Je crois que ce n'est pas la même chose que dans l'Évangile, ni chez saint Paul. Alors les démons, j'ai pris les démons, j'ai pris Satan, qui plutôt est un mot hébraïque, hébreu. Satan, c'est l'obstacle, celui qui fait obstacle. Et diable, c'est diabolos, c'est celui qui sépare, divise. Alors pratiquement, ben, Satan en hébreu est traduit par diabolos en grec, donc il y a là des doublons, si on veut. Hein. Et pour les démons, eh bien, vous voyez que dans l'Ancien Testament, il y a deux versets qui parlent des démons. Offrir des sacrifices aux démons. Il n'y a pas beaucoup de démons. Il y a Satan, hein, après. Mais pour ce qui est du démon, eh bien, de nouveau, il y a 77 versets du Nouveau Testament qui parlent du démon. Et beaucoup dans l'Évangile. Beaucoup dans l'Évangile. Beaucoup de démons dans l'Évangile, surtout chez saint Marc, proportionnellement. Hein. Mais tous ces démons, sauf l'un ou l'autre, ce sont des guérisons physiques ou psychiques. C'est Jésus qui guérit un homme qui est malade, agité, perturbé, agressif, etc. Et on dit qu'il y a un démon en lui. Mais, donc c'est quand même très significatif hein, que dans tous les cas sauf 1 ou 2, c'est lié à une maladie physique. Et quand Jésus chasse le démon, ça veut dire qu'il guérit la personne. Hein. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il s'est battu avec ce démon-là, comme avec par exemple ben, le démon des tentations. Hein. Le démon des Satan des tentations du début de la vie publique de Jésus, c'est autre chose que les démons qu'il chasse dans les maladies, même si sans doute il y a un lien, hein, mais c'est un degré en dessous quand même. Chez Saint Jean, comme d'habitude, il y a sept fois l'indication de démon, et c'est Jésus qui est accusé d'avoir un démon en lui. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. Là, on voit que quand Jean parle de démon, c'est pour dire qu'on l'accuse Jésus d'avoir un démon en lui. Une fois, c'est appliqué à Judas. Paul en parle un petit peu à propos de l'Eucharistie et des idoles, etc. Alors, pour Satan, il y a 14 versets dans l'Ancien Testament et 33 dans le Nouveau. Pour le diable, il y a 0 dans l'Ancien Testament et 32 dans le Nouveau. Alors, 0 dans l'Ancien parce que j'ai pris ici le compte de la Bible hébraïque, mais je vous ai mis en note que, justement, le cours passé, eh bien, c'était hein, au verset Sagesse 2, 24, c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Mais c'est compliqué parce que c'est en grec, c'est pas reconnu par tout le monde, etc. Donc, je ne l'ai pas compté, mais de toute façon, entre 0 et 1, il y a assez peu de différence. Hein. Alors, au total du total, et je crois que c'est ça qui est intéressant, j'ai mis donc le nombre d'anges. Alors, dans vos syllabus, il y aura un compte un peu plus large parce que j'ai compté aussi prince de ce monde, prince des ténèbres, etc. Enfin, il y a quelques occurrences supplémentaires. Donc, mais les chiffres sont quand même à peu près les mêmes. Pour les anges dans l'Ancien Testament, 105 et 170 dans le Nouveau, ça veut dire plus dans le Nouveau que dans l'Ancien. Mais idem pour les démons et autres, 16 contre 142. Et si on fait donc le total de anges et démons dans l'Ancien, ça fait 121. Et le total d'anges et démons dans le Nouveau, ça fait 312. Ça fait quand même un beau paquet, hein. Mais ce qu'il est intéressant de remarquer donc dans une partie du petit tableau, c'est que donc il y a beaucoup plus dans le Nouveau que dans l'Ancien, et il y a beaucoup plus d'anges ou beaucoup plus de démons au total. Beaucoup plus d'anges quand même, hein. 275 contre 158. Donc ça veut dire que, à côté du fait que le Nouveau Testament est plus aux prises avec ses puissances invisibles que l'Ancien, il y a aussi une supériorité, au moins numérique, mais elle est aussi théologique bien sûr, hein, des bons anges par rapport aux mauvais anges. Hein. C'est presque du simple double. Voilà, alors ça c'est pour cette petite enquête qui, me semble-t-il, signifie qu'il y a de la matière biblique pour parler des anges. Hein. Alors saint Augustin, je ne sais pas si vous vous souvenez de saint Augustin, où est-ce qu'il avait vu la création des anges? Dans Genèse 1, à un moment, hein, on sépare la lumière des ténèbres, mais ça, on n'ajoute pas que c'est bon, donc ça veut dire que c'est les mauvais. Enfin bon, il tire un peu par les cheveux, bien sûr. Genèse 1, 4, 5, c'est là qu'il découvre peut-être une allusion à la chute des bons anges, enfin, qui deviennent mauvais. Le pseudo-Denis, alors lui, le pseudo-Denis avec... beaucoup de recours aussi à l'écriture, eh bien, il fait la hiérarchie des anges. Donc, il découvre qu'il y a 9 sortes d'anges et qui sont groupés 3 par 3. Voilà, donc il y a 9 chœurs angéliques. 3 triades hiérarchisées, les séraphins, les chérubins, puis les trônes. Ensuite, les seigneuries, les puissances et les dominations. Et puis, les principautés, les archanges et les anges. Donc, les anges sont au bas de l'échelle. Hein. Sont au bas de l'échelle. Alors, bon, ben, les séraphins et tout ça, ben, c'est ce qu'on voit dans Isaïe 6, hein, saint, 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 le Seigneur. Les chérubins, ben, la plupart du temps, il y a beaucoup de fois chérubins dans la Bible, mais les chérubins, ce sont les les statues d'anges qui se trouvent à côté de l'arche de l'Alliance. Alors là, ils sont au moins 50 fois, mais ce n'est pas directement l'ange. Et ainsi de suite, bon, je crois qu'il n'y a pas à tirer grand-chose de pseudo-Denis. Hein, mais voilà, il y a, si vous voulez le lire, eh bien, vous allez entrer dans un grand mystique néoplatonicienne hein, et liturgique. Très intéressant, mais vous me direz, est-ce que tout ça est dans la Bible? Bon, on n'en sait rien. C'est saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin a un traité très très précis hein, des anges. Dans la prima pars, il y a une quinzaine de questions. Et puis de nouveau, il y a 8 questions un peu plus loin. Dans la somme contre les gentils, il parle aussi beaucoup des anges. Cette doctrine se distingue par son extraordinaire acribie, par son extraordinaire précision. Hein. Il fait une recherche très profonde. Tout ce qu'on peut tirer de l'écriture, il le tire, mais malheureusement, c'est une critique que lui fait Barthes, malheureusement, il a un cadre préétabli, hein, qui est un cadre métaphysique. Donc il ne s'occupe pas tellement de la mission, il s'occupe surtout de la nature des anges. Et la nature des anges, eh bien, il l'a conçue à partir d'un tableau métaphysique. Hein. Il y a Dieu qui est un, où l'essence et l'existence ne font qu'un. Et puis il y a les anges où l'existence et l'essence font deux choses séparées. Et puis il y a les hommes où il y a en plus la matière avec la forme, etc. Bon, donc ce sont des schémas ontologiques, si on veut, hein, où il y avait une case manquante. Eh bien, ça, c'est les anges. Donc, dans son schéma ontologique, entre Dieu et l'homme, il manquerait un intermédiaire, logiquement. Eh bien, cet intermédiaire, logiquement, c'est l'ange, voilà. Donc, saint Thomas d'Aquin commence par là. Alors, pour Karl Barth, qui aime bien l'écriture, eh bien, ça, c'est vraiment une erreur fatale. On ne commence pas avec un schéma préétabli à lire l'écriture et puis à remplir ces petites cases qu'on a préformées. Donc voilà, l'angélologie de saint Thomas d'Aquin est assez abstraite. Si vous allez lire cette angélologie, c'est presque plus une espèce de théorie du fonctionnement de l'intelligence pure. Mais je ne sais pas si vous allez en tirer beaucoup de piété, hein, parce que c'est vraiment des raisonnements sur la manière dont on pense sans matière, et il n'y a pas de sens, mais enfin on peut quand même connaître la matière, mais c'est d'une autre manière, donc. La critique de la raison pure, à mon avis, est assez simple à côté de ça. Hein. Donc c'est un mécanisme de pensée. Enfin, vous irez voir si vous voulez. Et alors, il insiste beaucoup sur la nature des anges, parce que c'est un métaphysicien. Hein. Or, c'est sûr que la nature des anges n'est pas beaucoup définie dans l'Écriture sainte. Donc voilà, pour Karl Barth, eh bien, cette angélologie... Elle a ce défaut. Alors, par parenthèse, il fait vraiment, lui, une étude très approfondie de l'angélologie de saint Thomas d'Aquin. Hein. Ce n'est pas du tout un a priori. Barthes a écrit 250 pages sur toutes ces questions. Hein. 250 pages sur toutes ces questions. Pas que sur saint Thomas, mais je crois que le résumé le plus précis de l'angélologie de Thomas, c'est chez Karl Barthes qu'on le trouve. Hein. Balthazar lui a écrit une trentaine de pages là, là-dessus. Que je vais aussi vous résumer un peu plus tard. Donc voilà, je ne suis toujours pas satisfait hein, de savoir ce que sont les anges et les démons à partir de tout cela. J'ai quand même découvert dans l'écriture un certain nombre d'indices. Est-ce que je peux aller plus loin? Le magistère, que me dit le magistère? Alors de nouveau, j'ai pris le Denzinger, hein, le gros bouquin là, et j'ai ratissé tout ce qu'on pouvait dire sur la création des esprits, des anges, des démons, de l'homme, de l'ange gardien, de tout ce qu'on veut, quoi. Vous avez la liste de ces textes, pages 136 et 137 de votre syllabus. Vous voyez qu'en 447, par exemple, Léon le Grand, le pape Léon le Grand, eh bien, écrit quelque chose contre les priscillianistes, qui sont dualistes, et donc qui sont un peu dans le sens, bon, il y a Dieu, mais il y a quand même le diable qui n'est pas tout à fait égal, mais enfin, qui est quand même un second à côté. Alors, voilà, on dit que ce n'est pas bon. Hein. Le priscillianisme, le dualisme, ça ne va pas. On condamne différents types de dualisme. C'est souvent ça, en fait. Hein. On condamne le dualisme. Dieu est unique. Alla 34, on dit quelque chose de plus précis, je vais vous en parler, mais on peut dire que presque tout le reste, ce sont des choses assez indirectes, assez latérales. On ne tirera pas grand-chose hein, sur la nature ou la mission des anges en lisant tous ces textes que j'ai lus. Hein. Et on voit d'ailleurs que Vatican II parle de moins en moins des anges ou des démons comme tels, mais on signale quand même qu'il y a un monde invisible et que l'homme est humblement sur terre et qu'il y a un combat avec les puissances des ténèbres et le péché, etc. Mais disons, la personne, si on veut, de l'ange s'éloigne un petit peu comme figure qui a une espèce de caractère théâtral ou de caractère d'acteur dans l'histoire. Mais la 34, en 1215, c'est le pape Innocent III, si je me souviens. Alors ce la 34, c'est vraiment un concile qui a dit énormément de choses. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on a déjà parlé de la 34 à propos de quoi ? De la transsubstantiation, je crois. Hein ? Des sacrements, le septénaire. Hein ?
La présence.
Comment ?
La présence.
La présence réelle.
La présence.
Dans l'Eucharistie. Hein ? C'est aussi le premier concile qui parle de l'Inquisition. Hein ? Et c'est aussi un concile qui parle de manière la plus précise qui soit dans tout le Denzinger, eh bien, des anges et des démons, je vous lis exactement ce qu'il en dit. Ce sont donc des phrases dirigées contre les albigeois et les cathares. Donc une secte dualiste justement, hein, dans le sud de la France, en Provence, en Catalogne, etc. Et on dit que Dieu a créé les anges et le monde, puis l'homme. Le diable et les autres démons ont été créés par Dieu. Mais ils ont été créés bons par nature. Mais ce sont eux qui se sont rendus eux-mêmes mauvais. Donc ça, c'est l'affirmation. Hein. Évidemment, ici, on accepte l'idée de la chute de l'ange. Et on dit que cette chute est due à la liberté de l'ange. L'homme a été créé bon, l'ange a été créé bon. Ce n'est pas Dieu qui est le responsable du mal dans le monde. C'est ça qu'on veut affirmer. Hein. Quant à l'homme, c'est à l'instigation du démon qu'il a péché. Donc on met une interaction entre le démon et le péché de l'homme. Et dans l'au-delà, dit-on, eh bien, les uns iront au châtiment sans fin avec le diable, les autres à une gloire éternelle avec le Christ. On ne joue pas avec le Christ et ses anges. Hein. On dit avec le Christ. Je le signale parce que c'est quand même, on aurait pu faire un peu d'équilibre, hein, en disant, ben tiens, on va dans l'enfer avec le diable, puis on va au ciel avec le Christ et les anges. Eh ben non, on ne dit pas ça. Pourquoi ? Pour ne pas peut-être trop diviniser les anges. Hein. Donc il y a un enfer, oui d'accord, alors là c'est les mauvais, d'accord, mais au ciel il y a Dieu. Est-ce que les anges sont à côté de Dieu ? Non, mais attention, s'ils ne sont pas des personnes de la Trinité quand même, hein. Donc, voilà, on est prudent. Hein? On ne dit pas le Christ et ses anges. À mon avis, ce n'est pas non plus simplement un oubli. Innocent III n'oubliait rien. S'il avait fallu le mettre, on l'aurait mis. Donc voilà, l'affirmation, me semble-t-il, doctrinale la plus claire, c'est ceci. Dieu est l'unicréateur. Et il est bon dans toutes ses œuvres. Tout ce qu'il a fait est bon. Personne à côté de lui n'est capable de créer. Et s'il y a du mal, eh bien, c'est venu à cause de la liberté des créatures. Alors maintenant, je vais vous parler de Karl Barth. Comme je vous ai dit, Karl Barth, qui est un protestant, s'intéresse surtout à l'écriture. Hein. Ce qu'il reproche à saint Thomas, ce n'est pas d'avoir fait un bon traité, c'est de ne s'être inspiré beaucoup trop d'Aristote, de Platon aussi, de la matière et de la forme, hein, et peut-être pas assez de la Bible. Alors Barth dit, je ne peux pas ne pas m'intéresser aux anges. Hein. Nous avons vu qu'ils sont extrêmement nombreux, non seulement dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau. Donc les chiffres sont là, je dois interpréter cela. Je ne peux pas passer à côté. Hein? Alors, comment est-ce que je vais faire ? Eh bien, une première chose qu'il remarque, et je trouve que c'est vraiment intéressant, il remarque que si la Bible parle des anges, bien sûr, elle parle encore plus des cieux. Des cieux. Des cieux où les anges sont en présence de Dieu. Et d'où vient le Christ ? Enfin, les cieux, c'est un concept théologique extrêmement important, bien plus présent que le concept d'ange ou de démon. Et voici un petit tableau suggestif que je vous ai fait aussi à partir de mon accordance. Hein. L'expression « ciel et terre », ça se trouve dans le premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Premier verset. Donc c'est peut-être pas quand même sans importance. Et c'est l'expression « le ciel et la terre hein, », les deux ensemble. Et cette expression « le ciel et la terre », l'expression complète, revient dans 499 versets. En tout cas, il y a 499 occurrences de « le ciel et la terre ». Donc encore plus que les anges, plus que les démons, et presque autant que les deux ensemble. Et si on regarde le ciel tout seul ou la terre tout seul, hein, selon le and XOR en logique américaine, là, 469 fois, nous avons un verset où il y a soit le ciel, soit la terre, et souvent, ben, ils se suivent. Hein. Dans un verset, on parle du ciel, et dans le suivant, on parle de la terre. Et donc, on n'a pas le ciel et la terre dans le même verset. Alors, ce n'est pas Barthes qui a fait le tableau, mais il a eu cette intuition, et il a évidemment fait des sondages, et c'était clair. Hein. Donc, il y a 1968 fois hein, l'expression ciel et terre, soit entière, soit à moitié. C'est quand même extraordinaire. Hein. 2000 fois le ciel et la terre. Alors, il dit, ben voilà, moi je vais mettre en rapport ce ciel et cette terre avec la question du monde visible et invisible, et avec la question des anges et des hommes. Hein. Parce que, est-ce que les anges sont dans le ciel de Dieu, ou ils sont dans leur ciel à eux, ou bien quoi hein. Les cieux, on dit Dieu est au ciel, mais Dieu a créé le ciel. Alors c'est une image de dire que Dieu est au ciel. Hein. En fait, il est bien au-dessus du ciel, puisqu'il a créé le ciel et la terre. Hein. Il a créé le ciel et la terre. Donc, petit schéma, hein. Dieu a créé le ciel et la terre. Et donc ici, nous sommes dans l'incréé. Et ici, dans le créé. Dieu a créé le ciel et la terre. Alors, peut-être qu'il y a un rapport entre le ciel et la terre, et sans doute aussi un rapport entre le Dieu et la terre. Mais voilà, il faut dédoubler. Hein. Il faut dédoubler au moins notre imagination, parce que Dieu a créé le monde visible et invisible. Mais tout ça, c'est la création. Tout ça, c'est la création. Le ciel aussi, c'est la création. Et d'ailleurs, dans Coëlette, quelque part, c'est un verset que Barthes rappelle souvent. Rappelle-toi, hein, tu es sur terre et Dieu est au ciel. Alors, ce n'est pas tout à fait exact par rapport à ce schéma, mais c'est pour dire qu'il y a une grande différence entre l'homme où il est et le monde supérieur où se trouve Dieu, selon le Coëlette, mais ailleurs, c'est plutôt le domaine des anges. Alors, pour Barthes, en étudiant cette question dans la Bible, eh bien, le ciel, c'est le lieu des créatures invisibles. C'est le lieu des anges. Nous pouvons le voir, d'ailleurs, dans quoi ? Dans le Notre Père. Dans le Notre Père. On le dit tous les jours, on passe à côté. Alors ici, je prends l'interprétation de Maxime le Confesseur, hein, qui dit ça très bien. Le Notre Père, il y a sept demandes. Il y a une première invocation. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça c'est le Fils. Que ton règne vienne, ça c'est l'Esprit. Et donc on a la Trinité. Que ta volonté soit faite, comme au ciel, ainsi sur terre. Et ça c'est les anges. Que ta volonté soit faite. Ah oui, ben ici, maintenant, on demande qu'une volonté soit faite, donc il y a une liberté. Que ta volonté soit faite comme au ciel, ainsi sur terre. Et je reprends cette formule parce que Maxime le Confesseur insiste sur l'idée qu'il y a cette descente. Hein? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la au ciel, ainsi sur terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal ou du malin. Touponerou, le mot grec, supporte les deux traductions. Hein. Vous pouvez le personnaliser ou le prendre au neutre, peu importe. Enfin, disons, l'ambiguïté a un sens aussi, je crois. Mais attention, on ne s'arrête pas là. Parce que la vraie finale du Notre Père, c'est quoi ? Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance
et la gloire pour les siècles des siècles. Et on revient à la Trinité en disant, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, l'Esprit, la puissance, le Fils et la gloire, le Père. Voyez un petit peu le schéma, hein? Je crois que c'est assez suggestif quand même. Et l'idée de Barthes, c'est justement que ce domaine du ciel, alors ce n'est pas exclusif puisqu'on dit notre Père qui est aux cieux, hein? Mais ce domaine du ciel, de la création invisible, c'est le domaine des anges. Et dans ce domaine des anges, la volonté de Dieu est faite. Là, elle est faite. C'est ici qu'elle n'est peut-être pas faite. Hein? Et c'est ici qu'on doit imiter le ciel. Nous devons imiter le ciel, nous devons imiter les anges qui font toujours la volonté de Dieu. Alors ça, en effet, vous trouvez dans les psaumes, et vous trouvez partout dans la Bible, hein, que les anges sont les serviteurs du Seigneur, qu'ils le louent, qu'ils font sa volonté, etc. On ne parle pas tellement de ce qu'ils font de mal, il y a juste ces deux versets, là, peut-être. Hein, mais on dit souvent, très souvent, que les ouvriers de sa parole, les ouvriers de sa volonté, ce sont les anges. Alors justement, pour Karl Barth, les anges, ce sont donc ces créatures invisibles qui existent. Ils sont personnels, ils sont libres, mais qui font toujours la volonté de Dieu. Leur liberté, pour lui, là évidemment c'est une option qu'il prend, hein, leur liberté est différente de la nôtre. Leur liberté est une liberté qui dit toujours oui. C'est comme la liberté de Marie, si vous voulez. Hein. Avec Marie aussi, hein, on a une liberté qui dit toujours oui, par la grâce de Dieu. Eh bien, on pourrait dire que la volonté des anges, la liberté des anges, est une myriade de fois la liberté de Marie. Les anges font toujours la volonté de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais ceux qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Attendez. Mais donc, l'idée de dire que ces anges ont une liberté qui a dû dire oui ou non, et que, au fond, notre propre liberté est un peu comme cela, mais on est plus dans le temps, tandis que le font en un instant. Eh bien, pour Barthes, il dit, ben, ça je ne vois pas dans la Bible. Hein. Moi, je vois que les anges font la volonté de Dieu. Hein. Qu'ils envoient les messages, etc. Et, qui, bon. Et donc, selon Karl Barthes, et c'est très intéressant, me semble-t-il, la liberté des anges, elle existe, elle dit oui, elle ne dit que oui. Mais elle est vraiment libre. Elle est vraiment libre, et elle ne dit que oui. Alors, est-ce qu'on peut comparer maintenant notre liberté à celle des anges ? Eh bien, pour lui, c'est assez difficile. Or, c'est d'habitude ce qu'on fait, hein, en disant, c'est la même chose, moins la matière, c'est moins la même chose, moins le temps. Ça veut dire la même chose, moins tout, quoi. Enfin, bon. Donc, voilà, une conception de la liberté de l'ange tout à fait inattendue, hein, je crois originale. Alors, vous allez me dire, oui, mais les démons, il y a quand même quelques-uns qui ont dit non. Eh bien, il dit non. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas ces anges qui ont dit non. Je ne les vois pas beaucoup. Je vois ces deux versets à côté des 1950, je ne sais pas quoi, ce qui parle du ciel et de la terre. Moi, je fonce sur les, hein, ces versets qui parlent du ciel et de la terre. Et sur tous ces anges, et ces deux versets qui parlent de la chute des anges, ben, moi, je crois qu'on ne peut pas appuyer quelque chose de sérieux là-dessus. Et il va même jusqu'à dire, ben, les anges, c'est du néant. Pardon, les démons, c'est du néant. Le diable, le démon, ce qu'on appelle le diable, le démon, ce que nous appelons, eh bien, c'est le néant. Alors, c'est le néant. Mais il dit, attention, hein, c'est pas parce que c'est le néant que c'est rien du tout, et que c'est pas dangereux pour nous. La tentation du néant est cependant réelle et dangereuse pour l'homme. Mais il n'y a pas besoin d'un diablotin qui vient nous faire des petits signes ou quoi. Le néant, c'est vouloir sortir de la création. C'est vouloir ne pas être. Et cette tentation, il n'y a pas besoin que quelqu'un qui est de l'autre côté de je ne sais pas quoi nous fasse signe pour ça. Nous sommes parfois tentés par la vanité, le néant, le mensonge, la paresse et tout ça. Et ben voilà, c'est avoir envie de choisir le néant plutôt que la vie. Alors, est-ce que vous croyez au diable? Est-ce que vous croyez au diable? Eh bien, Karl Barth dit surtout pas. Il ne faut pas croire au diable, il faut croire au Christ qui nous sauve du diable. Alors là, c'est parfait. Croire au diable, ben non, mais c'est justement ça qu'il veut. C'est que vous croyez plus en lui que dans le Christ. Moi, dit-il, je ne crois pas au diable, mais je crois au Christ qui me sauve du diable. Ça, c'est la vraie foi. La vraie foi au Christ qui me sauve. Est-ce que vous avez peur du diable? N'ayez pas peur du diable, ayez peur de Dieu. Ayez la crainte de Dieu, et la crainte de Dieu chasse la crainte du diable. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est pas d'avoir peur devant lui. C'est de n'avoir peur de rien ni de personne, sauf d'avoir cette révérence, ce respect pour Dieu. N'ayez peur de rien ni de personne, même des personnes qui sont bonnes. Mais surtout, ne craignez pas le diable. En craignant le diable, vous lui faites un beaucoup trop grand honneur. Il ne désire qu'une chose, c'est qu'on s'intéresse à lui. Et qu'on fasse des grandes réflexions et qu'on se dit oui, mais peut-être, et ben, etc. Je crois que là, il y a quelque chose de très fort et de très christologique dans cette idée que il ne faut pas croire au diable, il faut croire au Christ qui me sauve du diable et que la seule crainte que nous ayons à avoir, c'est la crainte révérencieuse et adoratrice de Dieu. Et alors nous sommes libres. Nous sommes libres du mal, nous sommes libres du démon s'il existe ou s'il n'existe pas, et nous sommes libres de faire le bien. C'est ça l'essentiel. Alors voilà, ça c'était pour Barthes. Maintenant je passe à Balthazar. Balthazar, il conçoit toute l'histoire de l'humanité comme l'histoire d'une alliance. Une alliance entre Dieu et l'homme, et une alliance qui est comme un drame. Alors pas un drame parce que ça va être catastrophique, mais un drame parce que c'est comme une pièce de théâtre. C'est comme quelque chose qui se déroule. C'est un drame. C'est la dramatique divine. Et dans cette dramatique, eh bien, il explore donc cette idée de l'alliance entre Dieu et l'homme de manière très systématique en disant d'abord quels sont les personnages du drame. Eh bien, bon, il y a Dieu, Père, Fils, Esprit, et puis il y a Marie, et puis etc., et puis il y a Moïse, et tout ce qu'on veut. Est-ce que le diable est une partie est un personnage de la dramatique humano-divine? Alors il pose des questions, les démons sont-ils des personnes? Oui. Sont-ils des personnes dans le Christ? Oui, parce qu'ils ont été créés en lui. Alors Balthazar, c'est pas Barth, c'est autre chose. C'est plus classique si on veut. Mais quand même, ces personnes sont-elles des personnes dans le drame de l'alliance entre Dieu et les hommes? Eh bien, ça, il voit plutôt ces personnes comme extérieures, antérieures, supérieures à ce drame. Et on ne sait pas si elles interviennent ou pas dans ce drame. Non, ils font partie quelque part de la création, d'accord? Mais interviennent-ils dans cette alliance entre Dieu et l'homme? Balthazar dit... C'est assez extérieur. Il n'implique pas le diable là-dedans. Sont-elles des personnes théologiques? Eh bien là, c'est très douteux. Parce que pour lui, une personne théologique, c'est une personne qui a reçu une mission de Dieu. Et qui essaie de l'accomplir tant bien que mal. Je peux être une personne théologique même si je suis un grand pécheur, mais j'essaie de remplir ma zendung, ma obdracht, ce que je dois faire. Mais... est-ce que le diable a reçu une mission? Eh bien, c'est très douteux selon lui. Alors, comme je vous ai dit, il n'écrit lui qu'une trentaine de pages là-dessus, mais ce sont quand même des pages fort intéressantes, et il nous donne quand même un éclairage. Selon lui, voilà, il y a un aspect personnel. Alors, pour le cardinal Ratzinger, il a cette formule qu'il a développée dans une interview et puis après qu'il a publiée sous forme d'un article. C'est un article d'une page. Hein. Vous l'avez dans Christus, je vous ai mis la référence. Alors, l'idée, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait de Ratzinger, il l'a déjà reprise à Emil Brunner et à quelqu'un d'autre encore. Le diable est une non-personne. Une personne. Alors ça veut dire quoi? Alors vous allez me dire que c'est un espèce de tour de passe-passe. Oui, peut-être, mais c'est quelque chose quand même qui, pastoralement et spirituellement, est intéressant. C'est une non-personne, ça veut dire que c'est une personne qui a détruit sa personnalité, qui est devenue une non-personne. Parce que le diable s'est divisé. Le diable s'est divisé, il s'est fragmenté, déstructuré, désagrégé, tout ce que vous voulez, explosé, dans toute la réaction physique et spirituelle que vous voulez. Bon, en tout cas, il avait une unité, il l'a perdue. Il avait un but, eh bien, il a tout à fait raté. C'est une non-personne. Alors, est-ce que cette non-personne nous attire, nous instigue? Eh bien, chaque fois que nous, en effet, aussi, nous ne cherchons pas à faire notre unité hein, autour de Dieu, autour de la grâce, autour de l'Évangile, que nous nous laissons aller à cette désintégration, à nous laisser tirailler par des désirs contradictoires, des pulsions, etc., et qu'on tombe dans cette espèce de chaos, eh bien, on est entraîné dans la voie du diable et on cesse de plus en plus d'être une personne, à l'imitation du diable, qui est une non-personne. Alors, je crois qu'il y a vraiment une idée intéressante là-dedans. Hein. C'est que, vous connaissez par exemple pas des gens qui sont soumis à la drogue, etc. Mais de plus en plus, la personnalité se perd dans une espèce de chaos. On ne sait plus si on saisit encore la personne, si elle est capable de vouloir quelque chose, de désirer quelque chose. Enfin bon, vous voyez que donc il y a des situations où l'homme se désintègre. Alors je ne parle pas ici de la santé mentale, c'est un gros problème évidemment, mais je crois que volontairement nous pouvons ne pas chercher notre unité, nous pouvons chercher notre écartèlement et peut-être notre implosion finalement. Hein. C'est un petit peu ce que Barthes disait avec le néant est dangereux. Le néant est dangereux, il n'y a pas besoin d'être une personne pour être dangereux. Nous pouvons nous laisser attirer par le vide, le néant, ne pas avoir cette force, cette volonté d'être dans l'être, et d'être dans l'être avec notre volonté d'unifier notre être, corps, esprit et tout le reste, hein, autour de Dieu, autour de la grâce. Lehmann eh bien, a écrit aussi là-dessus, et il propose 5 thèses qui me semblent bien résumer, je crois, la plupart des positions que je vous ai exposées. Peut-être pas cette position plus originale, mais qui n'est quand même pas si différente, me semble-t-il, de certaines choses que disent Balthasar et Ratzinger. 1. La constatation de Barthes. Donc ici, c'est du Lehmann, vous avez la référence en dessous. Les réalités démoniaques et Satan occupent dans l'Évangile, et donc dans tout le Nouveau Testament, une place non centrale, mais irremplaçable, sous peine de défigurer son message. Donc vous dites, non, l'évangile, ça c'est, je démythologise, j'enlève tous les démons, eh bien, vous avez perdu quelque chose. Ce n'est plus l'évangile. Alors ces démons vous embêtent peut-être, vous ne savez pas quoi en faire, mais les évacuer, c'est certainement pas une bonne idée pour interpréter l'évangile. Hein. Il faut en faire quelque chose, il faut comprendre quelque chose de tout ça. On ne peut pas les évacuer. Ça c'est le premier point. Alors, 2. Le diable n'est, ni dans le Nouveau Testament, ni dans la Grande Tradition, la seule raison permettant d'expliquer la présence du mal dans le monde. Ce n'est pas la seule raison. Donc il ne faut pas lui attribuer un rôle excessif. On ne peut pas l'évacuer, mais il ne faut pas lui donner trop de place. 3. La volonté libre de l'homme n'est pas non plus la seule origine du mal. Ça, c'est aussi un message qui, selon Lehmann, est dans l'Évangile, hein, l'homme n'est pas entièrement responsable de tout le mal qui est autour de lui. Mais il n'est pas irresponsable. Hein, irresponsable de certaines choses qui sont claires et nettes, mais pas de tout. Alors, 4, c'est un petit peu la thèse de Ratzinger, Le concept de personne est applicable au diable, bien qu'il soit justement l'élément dépersonnalisant qui pervertit toute communication et en fait un mensonge, et se trouve ainsi aux antipodes du concept de la pensée personnaliste moderne. Donc c'est une personne, mais qui, ayant agi comme personne, a fait en sorte qu'elle a cessé d'être une vraie personne. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas encore un centre personnel qui peut être grave ou dangereux pour nous, mais justement, c'est par sa désintégration qu'il nous attire dans notre propre désir de néant ou d'implosion. Si l'on comprend ainsi le diable comme non-personne, le terme est utilisé par Ratzinger et Brunner, on trouve en lui un élément impersonnel, neutre, parent de tout ce qui a servi et aliène, de tout ce qui est puissance anonyme, etc. Tout ce qui est impersonnel nous gêne. Quand moi je suis aux prises avec un procès d'une société qui m'a... je ne sais pas qui c'est impersonnel. Ça m'embête beaucoup, hein. J'aimerais beaucoup mieux que ce soit une personne qui me fasse un procès. Quand c'est la société de gaz, d'électricité, je ne sais pas quoi, ou de machin bazar, et que je ne sais jamais à qui m'adresser, je suis opprimé, aliéné par un ennemi impersonnel, mais très puissant. Il est caractéristique que lorsque l'on cherche à déterminer la puissance mauvaise, on oscille entre la personne, le mauvais, le malin, et la chose, le mal. C'est dans ce cadre que l'on peut comprendre pourquoi on se fait mal comprendre et on rencontre des difficultés quand on parle du diable comme d'un être personnel. Si vous affirmez trop que c'est un être personnel, vous lui donnez trop d'honneur aussi, hein. Vous le considérez comme quelqu'un qui a un but, qui sait où il va, mais il ne sait pas où il va. C'est ce que dit Jésus, hein. À partir du moment où il est divisé, son royaume va s'effondrer, c'est tout. Pas possible. Alors, la cerise sur le gâteau, la possession démoniaque est-elle possible? Donc, quand on parle du démon, etc., souvent on s'imagine, hein, on a vu l'exorciste, on voit une jeune fille qui se débat, qui tourne la tête, pas comme un, je sais pas quoi, ça fait peur, alors on se dit, est-ce que c'est ça le diable? Est-ce que c'est ça le diable? Il y a des documents officiels qui parlent de cela, hein. Certains, alors j'ai ces informations, je tiens ces informations de Louis Pelletier qui est décédé, d'Emmanuel Dumont, qui sont deux prêtres de l'Emmanuel, qui ont travaillé ces questions. Certains distinguent trois actions du diable sur les hommes. La tentation, ça nous y sommes tous soumis. L'influence, ça c'est un peu plus grave. Et finalement, l'emprise. L'emprise, c'est une espèce d'aliénation. Et dans cette emprise, on peut voir l'infestation, la vexation, l'oppression, l'obsession et la possession. Alors, je ne sais pas comment ils définissent ces termes. La vexation, en tout cas, je sais bien que c'est les portes qui claquent, les murs qui font cric, etc., et qui vous empêchent de dormir. C'est des vexations. Alors, un grand exorciste italien a dit que c'était les scherzi du diable. Hein, les blagues que fait le diable à ceux qu'il a envie d'embêter. Bon, vexation, ouais, je ne sais pas. Enfin voilà, il y a, semble-t-il, chez certains, une classification de ces choses. Mais moi, je pense que tout ceci relève d'une sorte de psychiatrie spirituelle complexe. Je ne dis pas que ce n'est rien, hein. Mais je crois que c'est comme la psychiatrie, hein. Il faut l'étudier, il faut d'abord faire la médecine, puis chercher, etc. Et que ça concerne le plus souvent des cas isolés et malheureux. Vous voyez une dame qui est dépressive, même mélancolique depuis X temps, et puis sort de la maison psychiatrique, puis commence à avoir des attaques du démon, etc. Vous dites, c'est malheureux, mais le diable, il agit bien plus avec Staline et Hitler, hein. Là, le diable fait quelque chose, hein. Ici, c'est de la frime, hein. Enfin, pas pour cette dame-là, hein. C'est très malheureux, et je crois qu'il faut essayer de l'aider tant qu'on peut. Mais le diable, à mon avis, il y a bien d'autres endroits beaucoup plus graves. Hein. Toutes les guerres qu'il y a dans le monde, vous n'allez pas vous dire je vais aller là avec de l'eau bénite, hein, parce que c'est le diable. Mais le diable, il est là. Hein. Et vous savez bien que là, l'eau bénite, ça ne sert à rien. Hein. Moi, je pense que voilà, l'exorcisme, tout ça, ce sont des choses très, très, très périphériques, je pense. Hein. Alors, bien sûr, comme c'est assez spectaculaire, on voudrait bien en savoir un peu plus. Mais je crois que l'exorcisme comme tel n'est jamais à conseiller, sauf dans des cas extrêmes qu'il faut discerner et que des spécialistes doivent discerner. Ces spécialistes sont des exorcistes qui ont été nommés par l'évêque dans leur diocèse. Hein, ce n'est pas moi ou vous ou bien quelqu'un dans un groupe de prière. Non. Hein, ce sont des gens qui ont été désignés pour cela. Alors, selon les normes même de l'Église, un exorcisme ne peut être fait que avec différents accords, notamment l'avis d'un psychiatre. Hein. Actuellement, il faut l'avis d'un psychiatre. C'est nécessaire. Si vous le faites sans l'avis d'un psychiatre, non seulement vous ne faites pas ce que vous pouvez, vous faites quelque chose que vous ne pouvez pas faire, mais sans doute vous ne faites pas d'exorcisme. Puisque c'est une condition. Hein. On ne fait jamais seul non plus. Jamais seul. Un exorcisme n'est jamais seul avec le ou la possédé. Hein. Ça, c'est une règle depuis toujours. Alors, il y avait différents types de rituels. Il y avait le rituel de quelle année, là ? De 1614, que j'ai ici. Hein. En latin, bien sûr. Ça marche mieux en latin. Ce rituel a été en vigueur jusqu'en 1998. En 1998, on a fait un nouveau rituel. Et certains exorcistes disent qu'il n'est pas bon, etc. Parce que je ne sais pas quoi. Enfin, on utilisait encore, je ne le dis pas couramment, mais on utilisait le formulaire d'exorcisme de 1614, qui était d'ailleurs, je dirais, un peu étrange, à mon avis, on peut en discuter, mais qui avait certaines choses très, très bien vues. Hein. Et voilà. Donc moi, ce que je crois, c'est que les banquiers véreux, les institutions malveillantes et cupides et les chefs de guerre sont beaucoup plus possédés par le démon hein, que peut-être l'une ou l'autre personne dans un asile psychiatrique qui de temps en temps eh bien, se met à parler du diable et de Jésus-Christ, etc. Hein. Et alors on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier, tout ça. Bon, faites tout ce qu'il faut pour aider cette personne, mais à mon avis, ne croyez pas que c'est là que se cache le diable le plus. Hein. Voilà, je vous remercie.